Bonjour, donc nous sommes au Carrefour numérique dans le cadre de la thématique logiciel libre en partage. Et ce soir donc pour parler de logiciel libre et santé avec Chantal Bernard Putz qui est donc chef de projet informatique pour une société qui s'appelle EITIC. Elle est donc diplômée en santé publique et en épidémiologie. Par la faculté de médecine de Nancy, et elle interviendra sur les questions d'hébergement des données confidentielles. Gérard Delafond, lui, est médecin généraliste, utilisateur d'informatique depuis 1994 et impliqué dans le logiciel libre depuis 1996, auteur du guide de survie sous Linux, qui est librement téléchargeable, et du livre Linux pour tous, édité chez Duno. Il présentera un peu un logiciel made in Tuxt et surtout nous parlera un petit peu de justement lui, de son regard sur le traitement des données d'une manière vue du côté du praticien et notamment en liaison avec la carte vitale. Donc pour commencer cette présentation, nous allons demander, enfin, je demanderai plutôt à Chantal donc, de nous faire une petite présentation sur justement comment circulent finalement les données sur Internet, parce que peut-être que pour le commun des mortels, finalement, on ne sait pas de qu'est-ce qui circule et comment ça circule et s'il y a danger ou y a-t-il danger. Voilà. Donc Chantal, à toi.
Merci. Bonsoir. En fait, cette circulation, c'est une question de confidentialité. Donc, on va un petit peu faire un voyage avec les données sur le réseau Internet. Alors, on va commencer par un petit exemple qui est le courrier postal. Bon, le courrier postal, tout le monde sait comment ça fonctionne. On écrit une lettre, on la met dans une enveloppe, et j'attire l'attention sur l'enveloppe qui est extrêmement importante. On la cachette, cette enveloppe est cachetée. Elle est mise dans une boîte aux lettres et le facteur, qui ne décachette pas l'enveloppe, la dépose à la poste, puis elle passe dans des centres de tri pour aboutir dans la boîte aux lettres du destinataire, toujours cachetée. Voilà. Comment ça se passe maintenant sur Internet? Alors, sur Internet, il y a un expéditeur, effectivement, et il y aura aussi un destinataire. L'expéditeur, depuis son ordinateur, envoie son message à sa poste à lui, qui est son fournisseur d'accès Internet. Alors, comment ça se passe sur Internet? Sur Internet, donc, l'ordinateur de l'expéditeur envoie les données à sa poste à lui, qui est son fournisseur d'accès Internet. Et donc le message rentre sur le serveur du fournisseur d'accès, on sort, et il y a déjà une copie qui est faite là. Ensuite, ce message, eh bien, il va circuler par divers chemins jusque à la poste on pourrait l'appeler la poste, effectivement, du destinataire, en entrant, en sortant du serveur, avant d'arriver chez le destinataire, il y a eu encore une copie. Mais il y a eu des tas de points par lesquels ce message est passé et qui permet de l'intercepter. Alors, en fait, il faut se rappeler que Internet, au départ, c'était un petit peu l'idée d'avoir un réseau maillé, permettant, maillé comme une toile d'araignée, en fait, hein, permettant aux données de continuer à circuler même si un point de ce réseau n'était plus disponible. C'est-à-dire qu'elles vont suivre un autre chemin. Bon, on a beaucoup parlé de serveur. Un serveur, ce n'est pas quelque chose qui est dans la nature. En fait, on n'explique pas tellement aux gens ce que c'est un serveur. Moi, j'ai croisé des gens qui pensaient que les données, c'était quelque part dans une espèce d'atmosphère particulière. Non, non, c'est une machine. C'est une machine qui ressemble ni plus ni moins à un gros ordinateur, bon, qui peut avoir des formes différentes, et qui est placée dans une salle spéciale, généralement, qui est une salle blanche, c'est-à-dire sans poussière, qui est climatisée, dans laquelle on ne rentre qu'en montant aussi patte blanche, de manière à à ce que les données gardées soient bien préservées. Et puis, elles sont dans des salles qui sont connectées au web par de très, très haut débit de connexion, de manière à ce que les données puissent bien circuler. Alors, tous les serveurs sont identifiés sur le réseau mondial et donc ils ont une adresse unique qui est composée de quatre suites de chiffres. C'est un peu comme un numéro de téléphone, en fait. Et ce qu'on appelle un nom de domaine, c'est en fait le nom pour comme dans un annuaire téléphonique. Hein, donc, par exemple, www.nadu.fr, bon, ben, c'est une suite de chiffres aussi, comme tous les serveurs. Alors, on peut très bien savoir par où passent nos données, notamment si on utilise un système libre qui permet d'utiliser des commandes comme traceroute. Bon, je crois que ça se fait aussi sur d'autres systèmes, mais c'est moins facile. Et qui vous montre un petit peu par où passent les données. Bon, moi j'ai fait un. Là, j'avais fait un petit essai juste avant de venir pour les données de mon serveur qui est situé à Paris. Et moi j'ai fait ce test depuis Nancy. Bon, ben j'ai calculé 11 points différents par lesquels passaient mes données et des points par lesquels elles pouvaient être interceptées. Pourquoi ? Parce que. Simplement, ces données, elles ne passent pas dans une enveloppe, a priori. Hein, généralement, les fournisseurs d'adresses mail ne donnent pas la possibilité d'utiliser un système sécurisé pour transmettre ces informations. Ce qui est quand même assez inquiétant parce qu'on peut justement les intercepter. Et on a fait des expériences qui montrent bien que les données peuvent être étudiées, interceptées. Certains mots, si vous mettez certains mots, d'ailleurs, les messages n'arrivent pas. On a des amis qui ont fait le test. Donc ces données n'étant pas cachées, il n'y a pas d'enveloppe, c'est quand même un risque d'atteinte à la confidentialité. Il y a bien sûr des systèmes pour les cacher, notamment des accès. Alors quand vous accédez par exemple à votre banque, vous n'y allez pas avec une adresse qui commence par HTTP, mais par HTTPS, et vous avez un petit cadenas qui s'affiche dans votre navigateur. Normalement, ça veut dire que ces données passent en chiffré entre votre machine et plus exactement entre le serveur, c'est-à-dire votre poste, et la poste du destinataire, le serveur du destinataire. Voilà. Bon, ensuite, il y a d'autres systèmes. On peut chiffrer des données, c'est légal en France, pour les transmettre, et c'est ce qui permet d'utiliser une enveloppe plutôt que d'envoyer des données comme si on envoyait une carte postale.
Oui, alors dans le cadre justement donc des données médicales. Les données qui sont échangées justement donc entre le médecin et un centre de sécurité sociale quand il s'agit justement d'envoyer par exemple une feuille de soins, ces données circulent aussi sur via Internet d'une manière chiffrée. Comment ça se passe ?
La transmission des données n'est peut-être pas le point le plus vulnérable des ce qu'on appelle les télétransmissions en termes médicaux, à savoir l'envoi de feuilles de maladie électroniques. La transmission des données, en réalité, le médecin ou le professionnel de santé, disons, qui désire télétransmettre, même il ne fait pas que désirer, c'est une obligation réglementaire. Il s'abonne à un professionnel spécialisé et généralement, il utilise ce professionnel spécialisé comme un point d'accès Internet. D'accord ? Donc, il faut quand même bien savoir que quand on fait de l'Internet, a priori, toute la partie entre votre ordinateur personnel et le premier serveur qui vous raccorde à Internet, elle est confidentielle, puisque ça va être votre fil de téléphone ou quelque chose comme ça. Et donc, en général, il n'y a pas grand monde sur ce fil-là. Donc normalement, c'est un peu comme un Minitel. Un Minitel, c'est confidentiel parce que vous êtes deux sur le fil. Le serveur à un bout et le client à l'autre bout. Donc, tant que vous n'êtes pas sur le net, mais simplement entre vous et votre fournisseur d'accès, jusqu'à présent, c'est à peu près confidentiel. Il y a des exceptions, mais bon. Le problème, il survient après. Qu'est-ce que deviennent ces données? Alors, il se trouve que la plupart, ou peut-être tous, je crois, parce que parmi les obligations légales de Sésame Vital, il y a le fait que les données doivent arriver à la Sécurité sociale par un réseau spécial, qui est comme Internet, en fait, qui s'appelle le réseau de santé sociale, qui, lui, est sécurisé, où il y a 36 000 intermédiaires inconnus, où les données sont protégées dans des conditions que j'ignore, enfin, qui ont un niveau de protection. Donc, normalement, c'est sécurisé entre vous et votre fournisseur d'accès, c'est sécurisé entre votre fournisseur d'accès et la Sécurité sociale. Donc, normalement, il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Le seul problème, c'est si votre fournisseur d'accès est malhonnête. S'il se met à détourner vos données d'une manière ou d'une autre, pour les revendre, pour que sais-je encore, il y aurait une faiblesse à ce niveau-là. Le nombre de ces fournisseurs d'accès, il est limité. Il y a médecine.fr, il y a Wenedou Santé, là, il y a les unions régionales d'Île-de-France, il y a enfin, des choses comme ça. Il y a un nombre de points d'accès qui est relativement limité et qui sont des gens qui ont quand même un certain nombre d'obligations, déontologie professionnelle, etc. Donc on peut faire un minimum de confiance, mais j'irai pas plus loin.
Oui, enfin, ce n'est pas vraiment dans leur intérêt de casser ce business, puisque c'est leur business aussi. Hein.
A priori, oui, donc on peut considérer voilà. Que ce n'est pas dans leur intérêt. Cela dit, on peut vouloir gagner de l'argent de manière différente. Donc on peut imaginer que s'il y a des données vendables, vous savez, d'une manière générale, ce qui est possible de vendre se vend. Donc on peut toujours imaginer qu'il y ait des gens malhonnêtes qui, un jour ou l'autre, fassent des choses mal. Mais bon, pour le moment, on n'a pas aucune trace là-dessus. Pour moi, ce qui est beaucoup plus critiquable dans le système vital, qui actuellement n'est qu'un simple système d'établissement de feuilles de maladie, ni plus ni moins. Vous savez, les gens fantasment beaucoup sur le système vital. Autant dans les évolutions de système vital, il y a toutes sortes de craintes à avoir. Dans l'état actuel des choses, il n'y a pas trop de problèmes, dans la mesure où une carte vitale, quasiment, c'est une carte d'assuré social. Il y a marqué votre nom, votre numéro de sécu, et si vous êtes à 100%, et si vous avez des ayants droit. Il n'y a pas marqué grand-chose dessus. Et la télétransmission, c'est une feuille de maladie. On dit l'acte vous est fait. Alors effectivement, si on fait un recoupement entre le praticien qui a fait l'acte, et puis de plus en plus, ça devient plus inquiétant, parce qu'avec le cahier des charges dit 1.40, qui est le nouveau cahier des charges de Sésame Vital, on ne télétransmet plus des cas. Vous savez qu'avant, on cotait les actes médicaux en K, en C, en Z, en V, en toute une sorte de lettres clés un peu, mais qui n'avaient pas de valeur médicale. C'est-à-dire que lorsqu'on vous faisait un K10, ça pouvait être n'importe quoi. Ça pouvait être un examen du cœur ou ça pouvait être un examen enfin, il y avait un examen de toutes sortes de choses pneumologiques ou dermatologiques ou quoi. C'était tarifaire. C'était tarifaire. On est passé maintenant en CECAM. Classification commune des actes médicaux, où l'acte que vous envoyez est parfaitement individualisé. On vous a fait une ponction du genou, on vous a fait une radiothérapie du sein gauche, on vous a fait des choses comme ça. On est la CECAM, qui est le nouveau système qui remplace depuis le 1er avril, je crois, le système de la NGAP qu'on avait avant, la nomenclature générale des actes médicaux et paramédicaux, je crois. Eh bien, ce nouveau système-là, lui, il est beaucoup plus sensible, parce que vraiment, on sait vraiment ce que les gens ont eu. On sait pas que le nom de leur médecin et combien ils ont payé. On sait aussi exactement l'acte qu'on leur a fait. Donc, c'est un petit peu plus sensible. Mais, enfin, moi, dans l'analyse personnelle que j'en fais, les problèmes de sécurité liés à Sésame Vital, ils sont beaucoup plus sur d'autres choses liées au logiciel Sésame Vital lui-même. Et là, je vais m'expliquer. Et si les gens n'ont pas trop de notion de ce que c'est qu'un logiciel à source ouverte, je vais essayer de leur introduire un petit peu la notion de source. En quelques mots, un logiciel, qui est donc quelque chose qui vous sert à faire toutes sortes d'actions sur un ordinateur, c'est, une, comme son nom l'indique, une suite de commandes logiques. En fait, ça veut dire que si j'ai tant de choses qui ont telle valeur, je vais faire telle action, etc. C'est une suite de commandes logiques. Il se trouve qu'un ordinateur ne comprend rien à tout ça, parce que l'ordinateur, il comprend que les 1 et les 0. Et quand un programmeur écrit un logiciel, il écrit dans un langage humain, et l'ordinateur ne comprend pas ce langage humain. À ce moment-là, la parade, la méthode qu'on utilise pour faire fonctionner les ordinateurs consiste à transformer ce logiciel qui est écrit dans un langage humain en un langage machine, qui est une suite de 1 et de 0 parfaitement incompréhensible pour un être humain normalement constitué, même un expert. Et on utilise un compilateur pour faire ça et on dit que le programme est compilé.
Et il est sous forme d'un binaire.
On appelle ça un binaire, on appelle ça un exécutable, on appelle ça un programme compilé.
Voilà.
Et donc ce programme binaire ou exécutable, c'est quelque chose de parfaitement incompréhensible pour vous ou moi ou qui que ce soit d'autre. Il n'y a qu'un ordinateur qui comprend à quoi il sert, vous ou moi on ne comprend pas ce qu'il fait. Et donc le logiciel binaire, c'est quelque chose, c'est très pratique. Parce que vous avez besoin d'avoir une fonction donnée, vous allez dans, chez un marchand, vous achetez un logiciel, vous avez votre ordinateur, et hop, vous faites la fonction qui vous intéresse, tout le monde est content, il y a des, plein de petits machins qui clignotent à l'écran, c'est extraordinaire. Le seul problème, c'est que vous n'avez pas la moindre idée si ce logiciel ne fait pas d'autres choses. Les autres choses peuvent être des fonctions virales, peuvent être des spyware, comme on appelle, des fonctions espions. Alors un spyware, tout, vous savez que la plupart des utilisateurs des logiciels Windows actuellement ont des spyware sur leur ordinateur. Ils n'ont jamais cliqué en disant « je veux télécharger un spyware ». C'est caché un spyware par définition. Les gens, ils ont cliqué pour télécharger une jolie photo d'une demoiselle en petite tenue, ou ils ont cliqué pour aller sur un site de blog ou je ne sais trop quoi. Et d'une manière ou d'une autre, ce logiciel binaire où ils ont téléchargé un logiciel binaire qui sert à, je sais pas moi, à dessiner ou à écrire ou à compter ou toutes sortes de fonctions. Et ce logiciel avait une fonction cachée. Et la fonction cachée consistait à foutre le bazar dans leur ordinateur, à leur faire des, à leur faire afficher des jolis messages à l'écran où il y a plein de demoiselles en bonne compagnie qui s'affiche, enfin des choses comme ça. Et bon, donc vous voyez, le fait d'avoir un ordinateur contaminé par des fonctions cachées, c'est quelque chose de tout à fait banal. Et en revenant à ce système de Sésame Vital, dans le cahier des charges des éditeurs Sésame Vital, il faut savoir que les logiciels qui lisent les cartes Sésame Vital chez les médecins sont écrits par des éditeurs privés qui respectent un cahier des charges. Donc la Sécurité sociale leur dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire pour faire une feuille de maladie électronique. Donc les gens font le logiciel, la Sécurité sociale vérifie que le logiciel fait bien la chose en question en le testant, tout simplement. Et à ce moment-là, le logiciel est homologué et les éditeurs sont habilités à le distribuer. Simplement, dans le cahier des charges, les éditeurs ont interdiction de publier leur code source. Autrement dit, leurs clients, leurs utilisateurs ne doivent pas savoir ce qu'il y a dans le logiciel. Il est illégal, pour contractuellement illégal, puisque c'est un contrat que signent les éditeurs, il est contractuellement illégal de distribuer les versions sources de son programme. C'est pas possible. Donc le résultat de ça, ça veut dire que lorsque un professionnel de santé désire télétransmettre, il est obligé d'utiliser un logiciel de marque X, Y ou Z, peu importe, qui a une caractéristique commune, quelle que soit la marque, c'est que le logiciel, il pourra pas savoir ce qu'il y a dedans. Il n'a pas le droit de savoir ce qu'il y a dedans.
Oui, alors moi j'ai quand même une question, c'est que, ok, peut-être le médecin en question n'a pas le droit de savoir ce qu'il y a dedans, mais la Sécurité sociale, disons, ou l'organisme qui a donc commandé ce logiciel à un éditeur, ou qui a donc demandé, sur la base d'un cahier des charges, n'a pas un bureau de vérification qui permet de valider la conformité du logiciel par rapport au cahier des charges.
Premièrement, à ma connaissance, les éditeurs ne fournissent pas leurs sources à la Sécurité sociale. Première chose. Deuxième chose, quand bien même ils la fourniraient, ça ne garantit strictement rien. Rien ne vous empêche d'avoir deux versions du source, une version montrable que vous montrez et une version plus clandestine que vous distribuez. Et sous forme compilée, bien sûr, sous forme binaire uniquement. Donc vous pouvez parfaitement montrer une version A à la Sécurité sociale qui serait parfaitement honnête, etc. Et en même temps, donner aux praticiens une version B qui, elle, serait sournoise et ferait toutes sortes de choses tout à fait malveillantes. Alors, vous allez me dire, tous les logiciels du commerce, beaucoup de gens utilisent des logiciels type Word, Excel, Explorer, etc., sont en version binaire seulement. Les gens qui ont vu le source de Word, en dehors de chez Microsoft, à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup. Mais pour moi, il y a une très grosse différence, c'est que les gens qui vont utiliser ces logiciels-là le font de leur plein gré. C'est-à-dire que ces gens-là, ils disent, moi, je décide de faire confiance à tel ou tel éditeur, j'estime que c'est quelqu'un de bien, enfin, j'ai pas d'informations qui me volent mes données ou qui fassent des choses malhonnêtes. Donc, je choisis, c'est un choix. Bon. Or, dans le cas de Sésame Vital, c'est plus un choix. C'est-à-dire que c'est une imposition. Or, on se retrouve avec le fait que les pouvoirs publics imposent aux professionnels de santé d'utiliser des logiciels sur lesquels ils n'ont pas eux-mêmes le moindre contrôle de qualité. Donc je suis obligé de faire confiance à quelqu'un qu'on m'impose. Ce qui est quand même assez différent de faire confiance à quelqu'un que j'ai choisi, même si au bout du compte, il faut toujours faire confiance. Mais alors que quand vous êtes dans le système à source ouverte, vous n'avez pas à faire confiance. L'expérience a prouvé, par exemple, qu'il y avait beaucoup moins de spyware, virus, etc. dans les logiciels libres, simplement parce que leur code est publié. Je ne dis pas que les gens passent leur temps à le lire, ce code en question. Mais à partir du moment où vous publiez les plans d'une machine, vous vous exposez à ce que les défauts soient vus et connus de tous. Donc vous mettez pas n'importe quoi dans vos plans et vous faites des plans sérieux. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y a une grosse différence. Alors on va nous dire, récemment on m'a parlé de la théorie du complot, on m'a dit X-Files. C'est X-Files ton truc. Le spyware, c'est pas seulement des petits malins sur Internet qui font des vilaines choses. Il y a une des plus grandes sociétés multinationales de disques récemment qui a distribué avec des CD de musique, qui a distribué un spyware. Ça a fait un foin, c'était au mois de, je crois, de décembre 2005, quelque chose comme ça. Donc une des plus grandes sociétés internationales japonaises qui a distribué un spyware qui a mis à mal les ordinateurs des gens et qui était, en plus, qui était viral. Il y avait trois qualités, c'est là que c'est merveilleux. C'était un spyware, il était viral. C'était en plus ce qu'on appelle un rootkit en termes techniques, c'est-à-dire qu'il prenait le contrôle total de la machine sans se faire voir. Et cerise sur le gâteau, il contenait des parties qui étaient des logiciels libres, mais qui avaient été détournés de leur usage et de leur licence par l'éditeur en question. Donc c'était vraiment la totale, quoi. Donc vous voyez, c'est pas parce que sur un truc qui a marqué une grande marque très prestigieuse, très renommée, ayant pignon sur rue, etc., que ça vous met à l'abri d'actes franchement malveillants. Alors actuellement, j'insiste sur le fait qu'on n'a pas la moindre notion actuellement qu'aucun éditeur, Sésame Vital par exemple, n'ait vendu des données ou fait des choses désagréables, mais potentiellement ça ne pose pas l'ombre d'un problème technique, hein. À partir du moment où vous distribuez un programme en binaire seulement, votre programme peut espionner la totalité de ce qui se passe dans la machine. Il peut lire vos disques durs, envoyer des données dans tel ou tel pays étranger ou dans telle ou telle firme, par exemple pharmaceutique. On peut très bien imaginer qu'un logiciel sur votre machine, il détecte tous les gens qui sont invalides et puis qu'il envoie la liste à un marchand de fauteuils roulants. Tout est absolument envisageable dans ces conditions-là. Je ne dis pas que c'est fait, je dis simplement que c'est faisable et que, en ce qui me concerne, j'estime qu'on ne doit pas imposer aux médecins des logiciels dangereux, puisque tout logiciel binaire est un logiciel dangereux pour la sécurité des données. Alors même, vous allez me dire que je suis un petit peu extrémiste, mais ça va quand même beaucoup plus loin que ça, parce que les gens, par exemple, qui utilisent Microsoft Windows, explicitement acceptent une licence qui s'appelle le CLUF, le contrat de licence d'utilisateur final, et cette licence permet explicitement à une firme américaine d'ailleurs, enfin peu importe, ça pourrait être aussi française, ça ne changerait pas le problème, elle permet explicitement à cette firme de visiter notre ordinateur en lecture et en écriture. Alors maintenant, vous allez m'expliquer comment un professionnel de santé qui est tenu de respecter le secret médical, c'est-à-dire de ne pas divulguer les informations médicales de ses patients, comment ce professionnel de santé fait pour concilier d'avoir des données hébergées sur un ordinateur dont il a lui-même accepté qu'il puisse être lu par une société non médicale, même pas nationale, etc., etc. On croit rêver. Et pourtant, il faut savoir que la licence CLUF en question a fait énormément de vagues, par exemple aux États-Unis, dans le milieu des avocats. Parce que l'ordre des avocats, c'est de demander dans quelle mesure on pouvait mettre les données confidentielles des clients des avocats, les confier aux bons soins de Microsoft. Donc vous voyez que le fait d'utiliser du binaire, c'est quelque chose qui n'est pas neutre du tout. Et quand je dis d'utiliser du source, c'est pas simplement qu'on vous ait montré le source, comme certains le disent. C'est que le source, il doit avoir été compilé sur votre ordinateur, transformé en binaire sur votre ordinateur. Parce que si on vous montre un source d'une main et qu'on vous donne un binaire d'une autre main, rien ne prouve que le binaire qu'on vous donne corresponde bien aux sources qu'on vous a montrées.
Oui, en même temps, je pense que c'est pas forcément la solution parce que je suis pas sûr que tous les médecins soient capables de lire le code source.
Ah non, non, non. Donc, une fois de plus.
Je pense qu'il faut qu'il y ait certainement une certification et certainement il faut qu'il y ait justement un accès à ces sources, ce qui me paraît tout à fait essentiel pour pouvoir certifier déjà. Et deuxièmement, que évidemment les téléchargements se fassent avec des certificats correspondants, etc., qui vraiment sécurisent justement la validité des binaires qui auraient été téléchargés si c'était des binaires. parce que tout le monde va peut-être pas forcément compiler ses sources.
Il n'est pas...
Je pense qu'il y a d'autres méthodes pour arriver justement à dire que ce binaire est absolument valide. Mais par contre, en quoi justement, justement le logiciel libre, pour rapprocher un petit peu justement ce domaine, pourrait apporter des solutions ou apporte déjà des solutions ou est sur le point d'apporter des solutions?
En ce qui concerne précisément ces âmes vitales, pour moi, en gardant l'architecture telle qu'elle est faite, il n'y a pas de solution. L'architecture en question, actuellement, elle est basée sur l'intelligence qui est mise sur l'ordinateur du médecin, qui fabrique une feuille de maladie, qui a un certain nombre de caractéristiques tout à fait intéressantes pour les administratifs. Et une fois que cette feuille est formatée, on l'envoie à la sécurité sociale. Et la sécurité sociale ne fait que prendre cette feuille formatée et la mettre en stock dans des bases de données. Et en déduire les paiements, les remboursements, etc. Bon. Donc tant que le fantasme de la sécurité sociale, c'est de dire si les médecins ont le source de leur logiciel système vital, ils vont le bidouiller, ils vont nous envoyer des feuilles de maladie complètement mal faites, bancales, voire même malicieuses, etc. Ou peut-être que les patients vont faire des fausses cartes vitales, des fausses feuilles vitales, et puis essayer de se faire rembourser des frais qui n'ont jamais été payés, n'ont jamais été avancés. Bon, donc la sécurité sociale relativement juste titre, estime que donner un accès trop libre aux sources d'un sésame vital sur le poste du médecin, c'est une chose à ne pas faire. Je pense qu'ils n'ont pas forcément tort, mais à ce moment-là, moi, ce que je demande, c'est qu'ils mettent l'intelligence sur leur serveur et que sur mon poste à moi de praticien, j'ai simplement une interface simple où il y a simplement un simple masque de saisie où je marque nom, prénom, ou enfin qui se remplisse automatiquement avec la carte vitale, peu importe, et que cette interface simple soit en connexion avec le système intelligent qui serait à l'autre bout du fil. Moi, on ne m'imposerait pas d'avoir, et à ce moment-là, ça me permettrait cette interface simple étant totalement neutre. Cette interface simple, ça peut être un navigateur Internet, par exemple. Un navigateur Internet, c'est quelque chose de neutre. Vous avez des petites cases qui s'affichent où vous avez le nom du malade, son numéro de sécurité sociale, la date, etc. Et vous envoyez ça directement sur le serveur, et c'est le serveur qui va traiter ces données-là pour en faire quelque chose d'intelligent. Dans ces conditions-là, on peut parfaitement bien faire de la télétransmission. Alors, ce que je dis là, ça a un deuxième avantage. Le premier avantage, c'est que ça permet au praticien et à son patient d'être sûr que les données ne vont pas se promener n'importe comment à cause d'un logiciel espion, par exemple, qui serait introduit dans le logiciel système vital du praticien. C'est un deuxième avantage, c'est que la réglementation évoluant relativement rapidement, on est obligé régulièrement de mettre à jour ces systèmes, ces âmes vitales. Je vous parlais du cahier des charges 1.40 qui remplace le cahier des charges 1.31. Il faut savoir que ces évolutions se font extrêmement lentement pour une simple raison, c'est que d'abord, à chaque fois, il faut réhomologuer toute une série de logiciels. Il y en a une centaine, je crois. Et surtout, le problème, c'est qu'il faut que des centaines de milliers de personnes se synchronisent pour mettre leur logiciel à jour. Ce qui prend un temps tout à fait considérable, avec tout le risque de déstabilisation des systèmes, l'ordinateur qui marche plus ou qui veut plus imprimer, ou il y a tout un tas de choses qui se passent quand on met des logiciels à jour, chacun a pu l'expérimenter. Donc, si on faisait les transmissions, par exemple, juste avec un simple navigateur Internet, le jour où les autorités qui gèrent le système de santé veulent mettre à jour, ils mettent leur serveur à jour, et dans la seconde qui suit, ils se mettent d'accord pour mettre tous leurs serveurs à jour à la seconde près s'ils le veulent. Et dans la seconde qui suit, tous les praticiens télétransmettent de la nouvelle manière. Et ils n'auront rien changé, ils n'auront eu aucun effort à fournir, ce qui les gêne pas mal. Beaucoup de médecins, ils ne connaissent strictement rien en informatique, donc dans ces conditions-là, c'est bien s'ils n'ont pas de travail compliqué de mise à jour à faire. Et le travail de mise à jour sera fait, mais c'est pas un travail... Donc le fait d'avoir mis l'intelligence de ces âmes vitales sur l'ordinateur du médecin, ça a été une très mauvaise idée. Ils en sortiront un jour ou l'autre, parce que vous savez, les bonnes idées finissent toujours par s'imposer. Simplement, c'est rarement pour commencer, quoi. Ça prend du temps.
Oui, alors merci. Par rapport à ça, je suppose qu'il y a déjà eu des travaux qui ont été faits dans ce sens-là. Et s'ils ont été faits, justement, où est-ce qu'on en est,
Alors, actuellement, il y a un certain nombre de manières pour un praticien d'échapper au sésame vital potentiellement espion. L'une, c'est de ne pas utiliser sésame vital sur son ordinateur médical. Moi, c'est la solution que j'ai retenue à l'heure qu'il est. C'est-à-dire que j'ai un ordinateur qui fait que sésame vital. Et j'y accède dans une petite fenêtre de mon ordinateur de travail normal. Donc ça m'évite de multiplier les claviers, etc. Donc il y a un deuxième ordinateur, un truc qui est bon pour la ferraille, que les sociétés évidemment mettent à la poubelle, vu la puissance qui est nécessaire pour faire ça, et ça fonctionne très bien comme ça. Donc j'ai un vieil ordinateur bon pour la poubelle normalement, qui me sert à faire ces âmes vitales, et je le télécommande, si vous voulez, dans une fenêtre de mon ordinateur. Donc moi, j'ai évacué ces âmes vitales de mon ordinateur. Il y a d'autres méthodes, une méthode qui consiste à utiliser des boîtiers dédiés, des espèces d'interfaces de Minitel ou de sortes de lecteurs de cartes bleues qui font que ça, qui contiennent l'intelligence eux-mêmes dans une puce. Ils ont un autre avantage chez ces appareils-là, c'est qu'ils sont mettables à jour à distance. Donc lorsque, si vous voulez, ils sont en relation avec un central, si vous voulez, et ce central est capable de télécommander la mise à jour de ces appareils. Donc c'est une solution qu'utilisent beaucoup les médecins réfractaires à l'informatique. Ils louent une espèce de boîtier dédié, et ce boîtier dédié est totalement indépendant de tout ce qu'ils ont de médical chez eux. Ça a un inconvénient, c'est ce qu'on appelle la double saisie, c'est-à-dire qu'on est obligé de marquer une fois le nom dans le dossier du malade, que ce soit un dossier papier ou un dossier informatique, et une deuxième fois faire le travail sur le boîtier pour saisir les actes. Donc on n'a pas de bon, ça complique un tout petit peu la tâche des gens, mais c'est faisable. La deuxième chose qui n'est pas du tout ces âmes vitales, mais qui permet de travailler dans la médecine, c'est que les médecins utilisent un applicatif médical qui leur sert à gérer leurs consultations, à faire un fichier, quoi, exactement comme dans le temps les ça valait ces grands fichiers papier qui allaient jusqu'au plafond avec les cartes classées verticalement. On est tout à fait en mesure de faire quelque chose comme ça en informatique. Simplement, jusqu'à maintenant, on ne disposait que de logiciels binaires, donc appartenant à des firmes privées qui ne voulaient en aucun cas diffuser le source. Et on n'avait aucun logiciel ni libre ni ouvert qui permettait de suivre les soins des patients. Donc la partie purement médicale de la chose, non ces âmes vitales. Il se trouve que depuis grosso modo un an, un médecin a relevé les manches et avec un talent de programmeur tout à fait étonnant. Et il a écrit un logiciel qui s'appelle MedinTux, qui est un logiciel libre, totalement en source ouverte, disponible pour toute plateforme, parce qu'il est écrit dans un langage qui va bien. Donc il fonctionnera aussi bien sur un Linux, aussi bien sur un Mac, aussi bien sur un Windows. Et ce logiciel permet de gérer les fiches des patients, les consultations, les ordonnances, les certificats médicaux, et également tout ce qui est réglementaire. Vous savez, on embête beaucoup maintenant les hôpitaux, les cliniques, avec des classification des maladies, classification des actes, classification j'aime ça. Alors certains ont dit j'aime pas ça. Le j'aime ça, c'est une question très simple qui consiste à savoir si après son passage aux urgences d'un hôpital, le malade est soit rentré chez lui, soit hospitalisé, soit mort, soit opéré, il y a 4 ou 5 items comme ça. Le logiciel MedinTux permet toutes ces classifications-là, et lui, il est totalement à source ouverte, c'est-à-dire que tout un chacun, je dis pas, vous disiez tout à l'heure, est-ce que le médecin saura vérifier? Le médecin, il ne sait pas vérifier, et même s'il savait vérifier, le temps de vérifier que la totalité d'un programme aussi gros ne contient pas de loup, c'est quasiment mission impossible. Mais vous savez, pour qu'un logiciel soit considéré comme libre, tout ça, il y a pas mal de critères. Il y a par exemple le fait qu'il soit sur un dépôt de source public, ce qu'on appelle un CVS ou en termes techniques. Un CVS, c'est quoi? C'est quelque chose qui garde l'historique. Et donc, à tout moment, on sait qui a fait quelle modification. Chaque modification est commentée. On dit, ben voilà, le 3 mars, j'ai rajouté une fonction qui me permet de comparer si le malade est déjà venu une première fois. Puis le 4 mars, j'ai rajouté une fonction qui me permet de savoir combien il est d'ordonnance. Et puis le 5 mars, j'invente des exemples. Et donc, on a en permanence la possibilité de consulter tout ça. Donc c'est déjà une manière, c'est par exemple de consulter l'historique. À ce moment-là, on peut faire des sondages. Par exemple, on peut regarder une des fonctions qui a été faite, qui correspond à quelques lignes de code. Et on regarde si ces quelques lignes de code ont l'air de faire quelque chose qui correspond à ce qui est décrit, par exemple. Et ça, même si on n'est pas un grand expert, on peut assez facilement faire ce genre de choses. Mais bon, donc il y a un certain nombre de manières de savoir. Et puis également, comme je disais tout à l'heure, le seul fait qu'une source soit ouverte, ça permet aussi aux gens de ne pas écrire trop de bêtises dans leur code, parce qu'ils savent qu'ils peuvent être audités. Chantal, je t'écoute.
Non, mais moi, je voulais revenir sur des choses beaucoup plus terre-à-terre. Hein. Je souhaiterais que ce soit les médecins, que ce soit les patients, il y a vraiment un souci sur cette confidentialité des données, mais même des choses très simples. Choisir sa messagerie, par exemple. On n'utilise pas n'importe quelle messagerie pour transmettre à n'importe quelle donnée. Alors, il y a des messageries, bon, qui sont peut-être des boîtes noires, effectivement, et ça, c'est un vrai problème, mais qui sont diffusées par des services agréés, médicaux, etc. Bon, moi, j'ai quand même vu des gens, dans le cadre de mon travail de chef de projet dans une société qui fait du logiciel libre, j'ai quand même vu des gens qui se transmettaient des informations sur leurs patients avec des messageries en Hotmail ou en MSN. Et je crois que ça, c'est important. C'est important que les acteurs de santé se penchent sur ce type de problème. Choisissent bien, essaient de se renseigner aussi sur le chiffrage, ça existe, ça marche très très bien, et que les patients eux-mêmes interpellent les acteurs de santé auxquels ils ont affaire, parce que c'est aussi leur vie privée, c'est aussi la protection, le respect des individus. Donc ça me semblait très important de rappeler ces choses-là, qui sont des choses très simple, avant même de demander aux acteurs de santé de plonger tête baissée dans l'informatique, ce qu'ils ne feront pas d'ailleurs. Mais par contre, c'est vrai qu'un système ouvert, c'est quand même un gage de protection, parce que même si les médecins eux-mêmes ne savent pas le lire, il y a des gens dans le monde qui savent le lire et absolument, qui ne sont pas dans la société précise qu'il a fait.
Absolument. Actuellement, par exemple, moi, je sais que je suis un très mauvais développeur. Hein. Je ne suis pas développeur, donc j'ai des excuses. Ça m'est arrivé d'écrire quelques lignes de code par hasard, quelques-unes dans Medintux, entre autres. Mais j'ai montré donc les sources de Medintux à un ami qui est un excellent développeur. Et il était interloqué par certaines fonctions qu'il comprenait mal. Il a tout de suite foncé dans le code. Il a trouvé la ligne de code correspondant à ses fonctions et ça lui a expliqué certains aspects du fonctionnement du logiciel. Je veux dire qu'un expert qui a accès à un code source peut très très vite voir s'il y a quelque chose de bizarre, etc. Donc non, le gars, il n'était pas du tout médecin, hein, il est informaticien. Simplement, il était intéressé par ce programme, il a été lire le code. Et il y a d'autres informaticiens déjà en France qui ont commencé à lire le code de Medintux. Il y en a un qui participe beaucoup et qui a écrit, qui lui-même en écrit maintenant et rajoute des parties tout à fait utiles. Donc voilà. Parmi les choses, les intérêts qu'il y a aussi pour un médecin d'avoir un logiciel ouvert, c'est à source ouverte et encore mieux libre, mais ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est qu'un médecin il doit garder ses données pendant très longtemps. Or, si vous comptez sur un logiciel purement binaire, vous n'avez aucune chance de lire vos données dans un certain nombre d'années. Parce que dans 10 ans, les ordinateurs seront faits autrement que maintenant et les logiciels binaires de nos jours ne tourneront plus sur les ordinateurs de dans 10 ans. En revanche, un logiciel en source ouverte aura toutes les chances de pouvoir être recompilé sur le nouveau système d'ordinateur et de pouvoir refonctionner. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à apporter Medintux sur 3 plateformes? C'est parce que le source était ouverte. La personne qui l'a porté sur Mac n'a jamais... c'est pas lui qui a écrit le code. Pourtant, le source étant ouverte, il a pu faire évoluer le programme et le porter sur Mac. Donc, il y a le problème de la pérennité des données qui est tout à fait importante que la source ouverte règle également. Donc, vous voyez, c'est pas que du X-Files, etc. Les histoires de médecins qui se sont fait embarquer dans des logiciels qui ont disparu. Et donc, vous savez, tous les gens qui ont commencé à l'époque de Amstrad et compagnie, quand il a fallu abandonner les Amstrad, ils avaient un logiciel qu'on appelait Orphelin, et ils se sont retrouvés à ne plus pouvoir lire leurs données, parce que les Amstrad, il n'y en a plus. Alors, il fallait peut-être au marché aux puces pour en trouver. On ne peut même plus lire les données. Il n'y a eu aucun moyen de conversion, aucun moyen de récupération, ni rien. La responsabilité pénale du médecin, elle est de 30 ans. Donc, ça pose un petit problème de pérennité. Il est essentiel d'avoir un logiciel qui pourra être recompilé ou peut-être que dans 10 ans, même si je suis à la retraite ou que sais-je encore, ou que je fais un autre métier ou tout ça, peut-être que j'aurai besoin d'avoir accès à mes données médicales de l'époque et peut-être qu'à ce moment-là, un informaticien pourra, grâce aux sources de mon programme, l'adapter à la nouvelle plateforme et me permettre de relire ces données-là dans le cadre d'un procès ou d'une recherche scientifique ou de 36 000 raisons. Donc c'est vraiment, c'est pas du gadget, c'est vrai que c'est pas... C'est vrai que je vous disais tout à l'heure, quand on va chez le marchand, qu'on achète un logiciel, on a des tas de machines qui viennent, etc., on règle effectivement son problème immédiat, mais on règle pas le problème global et le problème du long cours. C'est vraiment une réponse. Vous savez, quand on prend un logiciel non libre, C'est un petit peu comme, imaginez qu'on soit à la rue, par exemple, on n'a plus de maison, enfin c'est la catastrophe, bon, et on se fait héberger sous la tente ou par un ami ou par un beau-frère ou que sais-je encore. Eh bien, c'est très bien. Je veux dire qu'être à l'abri de la pluie, du froid provisoirement, c'est très bien. On va pas faire sa vie sous une tente ou sa vie chez le beau-frère. À un moment donné, bon, c'est un hébergement, ça règle un problème immédiat, ça ne règle pas un problème de long terme. Le vrai problème de long terme, c'est de se construire une maison et puis d'habiter dedans. C'est pas en habitant chez le copain, chez le voisin, machin, qu'on règle son problème. Donc, le logiciel binaire, c'est ça. Vous avez un problème sur le moment, vous achetez un logiciel ou vous le téléchargez, il y en a des gratuits, des logiciels binaires. Ils sont quand même binaires. Et si vous utilisez ça, il y a toujours un moment où vous finirez par coincer. Pourquoi est-ce qu'actuellement, on voit les entreprises commencer à se diriger vers le logiciel libre et ouvert de plus en plus, les grandes entreprises et les ministères et les administrations, etc. C'est parce que, dans un premier temps, ils ont cru régler leurs problèmes en achetant des logiciels fermés, et maintenant ils se rendent compte qu'ils tombent dans une impasse et qu'ils sont bien obligés de migrer à un moment donné pour avoir la maîtrise de leur système informatique, à la fois la pérennité, à la fois l'évolution, de pouvoir déterminer eux-mêmes une nouvelle fonction ou la commander à un professionnel qui va l'écrire pour eux, etc. Donc toutes ces choses-là, ce n'est pas du gadget, c'est ce qui permet, c'est une vision de long terme, je ne vous cache pas, c'est une vision de long terme. Vous savez, un grand spécialiste de logiciels libres, puisque on le considère comme l'inventeur, qui est Richard Stallman, il dit toujours, écoutez, sur le moment, vous faites ce que vous pouvez, ce que vous pouvez. Mais ce n'est pas des solutions. Quoi. La vraie solution, c'est d'être chez vous, prenez votre temps et assurez-vous d'être chez vous quand vous utilisez un ordinateur et pas chez les autres. Actuellement, les gens sont chez les autres.
Moi, pour conclure, j'avais envie de demander justement, ce logiciel a justement Made in Tux. Il est utilisé par des médecins?
Alors oui, il est utilisé par des médecins, mais déjà par moi. Depuis pas très longtemps, non pas parce qu'il n'était pas opérationnel depuis un certain temps, mais parce que j'ai eu énormément de mal à convertir mes données pour pouvoir les rentrer dans Made in Tux. Faut savoir que quand on a des données structurées dans une base de données, la base de données de destination n'a jamais la même structure que la base de départ. Les données ne sont pas classées de la même manière, si vous voulez. Et il faut écrire du code, il faut écrire du logiciel de manière à analyser les données une par une et les reformater de la nouvelle manière. Et c'est une opération qui est difficile. Ça demande beaucoup d'expertise. C'est pas le premier informaticien avec une casquette là qu'il a acheté au supermarché la veille qui va pouvoir faire ça. C'est un type qui est vraiment spécialiste en base de données et c'est quelque chose de long et difficile. Donc quand on paye par exemple une société pour le faire, ça coûte cher en général parce que c'est pas facile. Moi je l'utilise, mais il est utilisé en clinique et dans plusieurs cliniques à Marseille par plusieurs médecins généralistes et spécialistes. Et on a une utilisation qui est connue actuellement, donc en service d'urgence, puisque c'est là qu'il a été écrit au départ. On a des utilisations en médecine générale, en pneumologie, en psychiatrie. On a un psychiatre qui apparemment a très très bien appréhendé le logiciel, a fait des critiques très constructives et s'en sert beaucoup. Donc actuellement, on n'a pas de source fiable, on estime à quelques dizaines de sites l'endroit où le logiciel est déployé. Mais régulièrement, on a des gens qui nous contactent, moi-même ou l'autre, ou le principal auteur du logiciel qui s'appelle Roland Sevin, qui est un Marseillais. Et régulièrement, il y a une société donc sur la côte atlantique, je crois, qui développe, qui améliore Made in Tux, et entre autres qui a fait le portage sur Mac, et qui est une société de services pour médecins, et qui déploie actuellement le logiciel chez les médecins qui sont ses clients. Donc ça avance.
Et Made in Tux, bien sûr, lui, lit la carte vitale.
Alors, dans l'état actuel des choses, c'est plus compliqué que ça. La version qu'on trouve partout sur Internet ne lit pas la carte vitale. Des versions d'essai savent la lire. Alors, il y a deux choses. Lire la carte vitale en tant que telle, c'est pas très compliqué. N'importe quel lecteur de carte, vous savez, vous achetez des lecteurs au supermarché à 15 €, vous mettez votre carte dedans et vous la lisez. Donc c'est pas quelque chose de très compliqué de lire une carte vitale. Ce qui est compliqué, c'est de faire une feuille de maladie électronique. Or, une des premières fonctions qu'a faite Made in Tux, mais dans des versions qui probablement sont pas encore diffusées, c'est d'être capable de lire la carte vitale et de fabriquer un dossier médical à partir de la carte, donc prendre le nom, le numéro de sécurité sociale, le prénom, etc. Et à l'inverse, de permettre d'accéder au dossier depuis la carte. On met la carte dans un lecteur et à ce moment-là, on peut ouvrir le dossier depuis la carte. Donc ça, ce sont des fonctions, disons, de commodité qui ne sont pas télétransmission. Actuellement, le développeur de Made in Tux, Roland Sevin et ses amis, développent un logiciel système vital qui aura les mêmes caractéristiques que Medintuc, c'est-à-dire qui sera multiplateforme dans un langage de programmation agréable à utiliser, etc. Simplement, ce logiciel ne sera pas libre. Il est légalement impossible que ce logiciel soit libre. Il ne sera pas libre. Et c'est pour ça que, bon, personnellement, je préfère des solutions. Peut-être que moi, je l'utiliserai sur ma machine accessoire pour faire mes télétransmissions, mais il ne sera pas implanté dans mon ordinateur médical, parce que ça ne sera pas un logiciel à source ouverte.
Oui, d'accord. Donc, c'est, en fait, pour l'instant, vous utilisez ce logiciel pour le traitement des dossiers des patients.
Absolument.
Donc pour garder tout l'historique du patient.
Absolument, l'historique, etc.
Bon, bon alors pour conclure, il y a les solutions de l'avenir, c'est en fait de réformer tout le système de télétransmission pour finalement rentrer vers quelque chose de beaucoup moins opaque.
Pour moi, la télétransmission doit être faite d'une manière générale. On va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus technique. Les choses qui marchent bien sur le long terme sont les standards. Regardez par exemple les pages internet que tout le monde peut lire sur son ordinateur, qu'on appelle les pages HTML. Les pages HTML, c'est un standard, et grâce à ça, tout le monde peut le lire, qu'il utilise un Windows, qu'il utilise un Mac, qu'il utilise un Linux, que le serveur soit un Windows ou que le serveur soit un Linux ou un BSD ou toutes les marques de serveurs que vous voulez. Donc le fait d'utiliser des standards, c'est une manière tout à fait efficace d'assurer un système pérenne. Si on fait un système sésame vital basé sur le navigateur de l'utilisateur, un navigateur, on sait ce que c'est, il y en a des tas de marques différentes, des tas de modèles, etc. C'est très pratique pour aller naviguer. Donc pour moi, il y a vraiment une grosse réforme à faire. Tous ces systèmes de protocoles propriétaires sont toujours des systèmes qui meurent plus ou moins vite. Et il faut absolument passer un jour ou l'autre à un véritable standard pour la télétrans. Actuellement, quand on voit le potentiel fabuleux du simple navigateur, quand on voit des projets, un projet comme Wikipédia, par exemple, sur Internet, qui est un projet qui permet à tout le monde d'écrire sa propre encyclopédie en collaboration avec tous les autres gens de sa langue, c'est un projet qui a un dynamisme absolument extraordinaire et qui fonctionne dans un simple navigateur. Les gens n'installent rien chez eux, même pas un petit bout de logiciel, rien du tout. Ils ont un navigateur n'importe lequel, ça peut être Explorer, ça peut être Conqueror, ça peut être Firefox, ça peut être le navigateur qui vous tombe sous la main, et vous pouvez écrire un article pour Wikipédia. Donc on peut très très facilement, avec des systèmes simples et standardisés, être tout à fait efficace, et en général on est plus efficace. Les médecins auraient bien mieux avalé la télétransmission si on leur avait pas demandé d'acheter des logiciels chers, compliqués à installer, difficiles à maintenir, etc. On leur a dit, vous prenez votre navigateur sur l'accès internet que vous avez déjà et vous cliquez dessus. Moi je pense qu'ils auraient nettement plus accordé. Pour le problème des standards, il y a actuellement des nouveaux chevaux de bataille du gouvernement et de la sécurité sociale, c'est le dossier médical partagé. Le ministre d'Oust-Blasi avait dit que ce truc-là allait régler tous les problèmes, et puis maintenant finalement on dit qu'on va régler beaucoup moins avec ça. Bon, c'est un dossier qui est très très difficile, je pense que on va pas en parler actuellement parce que il y a tout un tas de problèmes, mais parmi les problèmes, vous savez, ces gens-là, ils veulent nous vendre des serveurs à des milliards d'euros, des milliards de dépenses pour faire le dossier médical partagé, alors que, à mon avis, un simple système de type peer-to-peer, c'est-à-dire de partage d'informations entre les différents détenteurs d'informations, à mon avis, serait largement suffisant à faire ce genre de choses-là. À mon avis, le dossier médical partagé, sans tenir compte du problème des droits d'accès, qui est compliqué à gérer, mais sur le plan technologique, la manière de partager les dossiers, à mon avis, il faudrait que chaque logiciel médical fonctionne comme un serveur web. C'est-à-dire qu'une personne qui a besoin d'une donnée médicale utilise son navigateur et que le logiciel médical qui contient la donnée exporte le dossier comme une page HTML, une simple page Internet. Donc une personne qui aura un simple navigateur, moyennant une identification qui est fondamentale qu'il faut mettre en place, mais la personne qui voudrait consulter un dossier à distance se connecterait à l'ordinateur du médecin et demanderait que cet ordinateur lui donne une page Internet contenant le dossier du médecin. À ce moment-là, il y aurait un système très facile. Ça gérerait entre autres le fait que les dossiers des médecins ont tous des structures très différentes. Certaines contiennent des images, d'autres non. Certaines contiennent des éléments techniques comme des électrocardiogrammes ou des radiographies ou autres, d'autres non. Eh bien, ça mettrait en exportant une page HTML représentant tout sous forme de texte et d'images et de tableaux d'afficher un dossier médical à distance sans s'être mis d'accord sur un protocole. Le seul protocole serait la machine serveur, donc celle du médecin qui détient les données, aurait pour mission d'exporter une page HTML. Et à ce moment-là, la machine cliente l'afficherait. Et là, on a une solution qui, au lieu de valoir 3 milliards d'euros, est une solution qui vaudrait à peu près rien, une mise à jour à faire dans chaque logiciel médical. Et un gros travail sur le droit d'accès. Parce que ça, c'est un vrai problème. Tout à l'heure, Chantal, elle a pas dit quelque chose de faux, mais il y a une petite notion qui est différente. Sur le problème de la confidentialité des données médicales. Quand on est médecin, infirmière, pharmacien ou autre, on est tenu au secret. Autrement dit, vous savez, quand on voit les conférences de presse sur le perron de l'hôpital Cochin ou du Val-de-Grâce ou quoi, quand un grand professeur en blouse blanche vous explique de quelle manière il a gratouillé la prostate de son illustre patient, c'est foncièrement illégal. C'est illégal. Lui, il a rien à dire. Quand le professeur et le docteur, celui qui faisait le grand secret, là, qui soignait François Mitterrand, on échappe, quand il faisait ses communiqués médicaux, c'était illégal. À l'époque, c'était complètement illégal de le faire. Qu'il mente ou qu'il mente pas, c'était illégal. En revanche, qu'un patient dise sa maladie, c'est parfaitement légal. Dans l'autobus, dans le métro, on entend en permanence les gens se raconter leur accouchement, leur crise hémorroïdaire, leur truc, leur machin. Bah, j'ai vu le médecin, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a dit ça. Je veux dire que on tend l'oreille, on entend tout le dossier médical des personnes. Et c'est légal. Je veux dire qu'ils en font ce qu'ils veulent de l'information. Elles sont à eux, ces informations-là. Ils veulent les donner à qui ils veulent. On a eu un exemple célèbre sur Internet. Un certain Patrick Volkerding, qui est l'auteur de la distribution Slackware. Pour les gens qui connaissent pas, c'est un truc qui intéresse beaucoup les gens qui font du Linux. Eh bien, Volkerding a eu une maladie. Il l'a mis sur le net. Il a dit, voilà, j'ai ça. Comment ça se soigne? Parce qu'une maladie qui était rare, etc. Il a eu des avis, etc. Et grâce à tout ça, il a pu, savoir quels étaient les spécialistes compétents, les médicaments efficaces, etc. Et je crois qu'il serait guéri. Bon, je veux dire que rien n'empêche un malade de dire ce qu'il a. Donc, en revanche, à mon avis, il n'a pas intérêt à trop le dire. Mais c'est un choix personnel. En revanche, en ce qui concerne le médecin, ce n'est pas un choix. C'est même le malade n'a pas le droit de dire à son médecin, vous avez le droit de dire les choses. Le malade ne peut pas délier le médecin de ce secret-là. C'est un secret qui est entre le malade et ce patient. Et que si un patient désire publier des informations sous une forme exacte sur le plan médical, donc il a peur de ne pas employer les bons termes, etc., il peut très bien demander à son médecin de lui écrire un texte, un certificat médical, ce que vous voulez, et diffuser lui-même ce texte. Un médecin peut écrire un texte en disant, voilà, cher patient, je vous ai opéré de la prostate, je vous ai fait ci, je vous ai fait ça, parce que vous avez telle maladie, le résultat du laboratoire dit ceci, cela. Il donne ce document au patient. Si le patient veut le mettre sur Internet, l'envoyer par ondes radio sur la planète Mars ou n'importe quoi, c'est son droit. Mais il n'y a aucune faute de personne. Mais le médecin ou le professionnel de santé en général, lui, n'a pas le droit de diffuser la donnée, même avec l'accord du patient. Donc voilà l'état de la législation. C'est du pénal. Donc, lorsque vous voyez un grand professeur raconter le dossier médical d'un président, c'est du pénal. Il devrait être devant un tribunal, ça s'appelle comment ? Pénal, correctionnel.
Bon, Gérard, merci. Donc, on voit que dans l'avenir, c'est des dossiers qui sont quand même extrêmement complexes, délicats, sensibles. Sur lesquels il est important de prendre son temps, de réfléchir, de trouver les solutions qui sont en même temps les moins coûteuses, les plus surtout les plus durables, c'est-à-dire de pas être obligé de refaire dans 5 ans tout le système, surtout pour 3 milliards, ça commence à faire cher. Donc, évidemment tenir compte des aspects légaux, de pouvoir garantir la sécurité des données et surtout justement la confidentialité des données plutôt que la sécurité, puisque c'est de ça dont il est question. Merci pour tous ces éclairages. Hein. Merci donc à Chantal Bernard Putz. Merci donc à Gérard Delafont. C'était donc Logiciel Libre et Santé. Et merci à tous les auditeurs. Et à très bientôt.
Merci de votre invitation.